Indépendance, tcha-tcha, Tosoumiye. Okipwaza, tcha-tcha, Toubakini.
La Grenouille vous propose des lectures d'extraits de deux livres du célèbre journaliste polonais Kapuscinski. Eben, écrit en 1998, et Il n'y aura pas de paradis, écrit en 1978, initialement publié sous le titre La guerre du foot. Mort en 2007, Kapuscinski a parcouru l'Afrique en tant que reporter pendant la période des indépendances. Je suis venue à Bamako dans l'espoir de suivre la guerre menée contre les Touaregs. Les Touaregs sont des vagabonds éternels. Peut-on du reste les qualifier de vagabonds ? Un vagabond est une personne qui erre en quête d'une place, d'une maison, d'une patrie. Le Touareg, lui, a sa maison et sa patrie dans laquelle il vit depuis 1000 ans, le cœur du Sahara. Mais sa maison est différente de la nôtre. Elle n'a ni mur, ni toit, ni porte, ni fenêtre. Elle n'est entourée par aucune haie, par aucun mur, par aucune clôture, par aucune limite. Le Touareg méprise tout ce qui délimite. Il s'efforce de détruire tout obstacle, il brise toute barrière. Sa patrie est sans bornes. Elle s'étend sur des milliers et des milliers de kilomètres de sable brûlant et de rochers. C'est une terre immense, perfide, stérile, que tout le monde redoute et évite. Ses frontières se trouvent là où se terminent le Sahara et le Sahel, là où commencent les champs verts, les villages et les maisons des peuples sédentaires, ennemis des Touaregs. Depuis des siècles, les uns sont en guerre contre les autres, car souvent la sécheresse au Sahara est telle que tous les puits disparaissent. Alors, les Touaregs sont contraints de quitter le désert avec leurs chameaux pour gagner les espaces verdoyants du fleuve Niger et du lac Tchad, afin d'abreuver et nourrir leurs troupeaux, et par la même occasion, se ravitailler eux-mêmes. Les Bantous, un peuple de paysans sédentaires, considèrent ces visites comme une invasion, une agression, un cataclysme. La haine que les uns entretiennent à l'égard des autres est terrible, car les Touaregs non seulement brûlent les villages et s'emparent des troupeaux, mais ils réduisent les villageois à l'esclavage. Pour les Touaregs, qui sont des berbères à la peau claire, les Africains noirs sont une race inférieure et méprisable. De leur côté, les Bantous considèrent les Touaregs comme des bandits, des parasites et des terroristes que le Sahara devrait anéantir à jamais. Dans cette partie de l'Afrique, les Bantous ont toujours lutté contre deux colonialismes. Le colonialisme français, imposé de l'extérieur, de l'Europe, de Paris, et un colonialisme intérieur, celui des Touaregs, qu'ils subissent depuis des siècles. Ces deux peuples, les Bantous, agriculteurs sédentaires, et les Touaregs, nomades vifs et alertes, ont de tout temps eu une conception du monde fondamentalement différente. Les premiers puisent leur force, leur vie, dans la terre, le siège de leurs ancêtres. Les Bantous enterrent leurs morts dans leurs champs, souvent à proximité de leur maison, et même sous le plancher de la hutte où ils habitent. Les morts continuent symboliquement de participer à l'existence des vivants. Ils veillent sur eux, les conseillent, interviennent, bénissent ou châtient. La terre tribale, familiale, n'est pas seulement un moyen d'existence, c'est aussi une valeur sacrée, le lieu d'où l'homme est venu et où il retournera. Le Touareg, le nomade, l'homme des espaces ouverts et des confins, le Oulan et le Cossaque du Sahara, a un tout autre rapport aux ancêtres. Les défunts disparaissent de la mémoire des vivants. Les Touaregs enterrent leurs morts dans le désert, dans un lieu arbitraire, en se gardant de ne jamais y revenir.
والله لا أرت سنين تكمي وندغم ترهين
والله لا أرت سنين تكمي وندغم ترهين
إيجاديكو التقيم
إيجاديكو التقيم
تفلم داتا أوادي جل
تفلم داتا أوادي جل
Dans cette partie de l'Afrique, les hommes du Sahara ont de tout temps fait du commerce avec les tribus sédentaires du Sahel et de la verdoyante savane. Ces échanges commerciaux portaient le nom de commerce muet. Les hommes du Sahara troquaient du sel contre de l'or. Ce sel, une denrée précieuse et recherchée, surtout sous les tropiques, était transporté sur la tête par les esclaves noirs, des Touaregs et des Arabes, probablement du Sahara aux rives du fleuve Niger. C'est là que se déroulaient les transactions. Alvis da Cadamosto, un marchand vénitien du XVe siècle, raconte. Quand les nègres arrivent au bord de l'eau, voilà ce qu'ils font. Chacun verse le petit tas de sel qu'il a transporté, le marque. Puis, abandonnant la rangée de monticules, ils repartent dans la direction d'où ils sont venus en marchant une demi-journée. Sur de grandes barques arrivent alors des hommes d'une autre tribu nègre. Ces gens ne se montrent jamais à personne, ne parlent avec personne. Venant probablement d'îles situées sur le fleuve, ils débarquent sur la rive et, après avoir examiné le sel, posent à côté de chaque petit tas une quantité d'or. Puis ils se retirent à leur tour en laissant et le sel et l'or. Une fois qu'ils sont repartis, ceux qui ont apporté le sel reviennent. Si la quantité d'or leur paraît suffisante, ils la prennent en laissant le sel. Sinon, ils ne prennent ni l'or ni le sel et repartent. Puis, les autres reviennent encore. Ils emportent les petits tas de sel, à côté desquels il n'y a plus d'or, rajoutent de l'or aux autres tas s'ils considèrent que c'est nécessaire, ou bien laissent le sel. C'est de cette manière qu'ils commercent entre eux, sans se voir, ni s'adresser la parole. Cela dure depuis très longtemps. Et bien que cette histoire semble invraisemblable, je vous garantis qu'elle est véridique. Je lis ce récit dans l'autocar qui me mène de Bamako à Mopti. Va à Mopti, mon conseiller des amis. Peut-être que de là, j'irai à Tombouctou, sur la terre des Touaregs, aux portes du Sahara. Les Touaregs sont en train de disparaître. Leur vie arrive à son terme. Des sécheresses terribles et permanentes les chassent du Sahara. Jadis, une partie d'entre eux vivait du pillage des caravanes. Aujourd'hui, ces caravanes sont rares et bien armées. Ils sont donc contraints de voyager sur des terres plus propices, là où il y a de l'eau. Or, ces terres sont partout occupées. Les Touaregs vivent au Mali, en Algérie, en Libye, au Niger, au Tchad et au Nigeria, mais ils font des incursions dans d'autres pays du Sahara. Ils ne se considèrent citoyens d'aucun État, ne veulent se soumettre à aucun gouvernement, à aucun pouvoir. Ils sont environ un demi-million, peut-être un million d'hommes. Personne n'a jamais compté ce peuple mobile, mystérieux, qui fuit les contacts, vit à part, enfermé non seulement physiquement, mais aussi mentalement dans son désert ingrat. Le monde extérieur n'intéresse pas les Touaregs. Il ne leur vient pas à l'esprit de chercher à connaître les mers, comme les Vikings, de faire du tourisme, de visiter l'Europe ou l'Amérique. Quand un voyageur européen qu'ils ont capturé leur dit qu'il veut atteindre le Niger, ils ne le croient pas. Pourquoi as-tu besoin du Niger? Il n'y a pas de fleuve dans ton pays? Bien que les Français aient occupé le Sahara pendant plus d'un demi-siècle, les Touaregs ont toujours refusé d'apprendre le français. Ils ne se sont jamais intéressés à Descartes, Rousseau, Balzac ou Proust. C'est un extrait de Ébène, un recueil de reportages écrit par le journaliste polonais Kapuściński.